Bonjour. Comme une pelote que l'on déroule, la réflexion autour de la dégustation nous porte à lire, découvrir et rencontrer des auteurs qui dépassent bien souvent le seul cadre de la dégustation. Ainsi, Bruno Queniou nous invitait-il à aborder un vin de manière globale, à l'inverse de la démarche habituelle du sommelier dont la formation le porte à le décortiquer pour analyser les arômes. Ainsi, avec David Lefebvre, abordions-nous le sujet complexe de la minéralité dans le vin à travers sa composante chimique. Ainsi, il y a peu, échangeons-nous avec Gabriel Lépouzé autour de la façon dont notre corps, et particulièrement notre cerveau, aborde la dégustation. Il est un nom, au cours de ces rencontres, qui est revenu souvent, pour sa capacité à penser l'ensemble de ces problématiques et bien au-delà, un nom dont les ouvrages font référence depuis plusieurs décennies et jalonnent ainsi la pensée sur, autour du vin, et donc bien entendu sur le monde et l'humain en général. Il était donc bien naturel qu'il vienne un jour à notre micro, d'autant que son dernier ouvrage, paru en 2020, fait le point sur « Le monde du vin aujourd'hui », c'est aux éditions Terre en vue. Ce 76e épisode s'intitule « Jacques Irigaud, le penseur géosensoriel ». Bienvenue dans la Terre à boire. Autour de moi, pour parler de vin, ont pris place aujourd'hui autour de la table Laurent Delceau. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien.
Bon, ravi de vous retrouver. Comment ?
On est ici.
Oui, on est ici.
Dans ce studio magnifique.
Ce studio magnifique. On est chez Plink, j'en profite pour le dire. Et c'est Julien derrière la console, une nouvelle fois. Merci à lui. Autour de la table, il y a également Patrice Defay. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Notre passionné passionnant, ravi lui aussi.
Ah bah oui, très, très content. On va pouvoir rencontrer des gens, discuter, boire du vin, tout ce qu'on ne fait plus depuis pas mal de mois. Donc c'est que du bonheur.
Et puis notre invité, c'est quelqu'un que tu as lu, relu et dont tu nous as souvent parlé quand on prépare... ces émissions. Et on a aussi autour de la table Bertrand du podcast La Grosse Bouffe.
Mais oui, salut Romain.
Salut Bertrand.
Très très content d'être parmi vous.
À force de dire du podcast La Grosse Bouffe, je pourrais dire aussi un peu de la terre à boire quand même.
Ah bah écoute, ça je te laisse libre de tes propos, c'est ton émission.
Alors je sais pas précisément quand va être diffusé cet épisode, mais là on est au milieu d'un cycle incroyable de La Grosse Bouffe qui démarre sur les religions monothéistes. Je vous invite à écouter ça, Bouffe et Judaïsme, c'est le premier numéro et c'est, voilà, c'est passionnant, comme très souvent La Grosse Bouffe.
C'est gentil, merci Romain.
Alors, une petite pensée pour Florence qui est, pour cause de Covid, restée à la maison. Remets-toi bien, Florence. Et là, je suis sûr que quand on diffusera cet épisode, elle sera rétablie.
On lui souhaite, ouais.
On lui souhaite, en tout cas. Donc, au sommaire aujourd'hui, je disais, un grand nom de, je ne sais pas trop comment le définir, on va lui poser la question, la pensée autour du vin, cette espèce d'approche globale et intellectuelle, et pas que autour du vin. Bonjour, Jacques Irigaud.
Bonjour.
Voilà un bonjour enthousiaste, ravi de te recevoir, puisqu'on s'est mis d'accord avant de commencer sur le fait qu'on pouvait se tutoyer. Tu es psychologue de formation, mais aussi œnologue et ingénieur de recherche à l'Université de Bourgogne, au sein de laquelle tu as créé le diplôme vin et culture et un autre diplôme, celui de la pratique de la dégustation par la connaissance des terroirs. Ces deux titres-là nous donnent déjà des indications sur l'ensemble...
Sans oublier sciences de la vigne et environnement, auxquelles je tiens particulièrement, puisque je suis un écolo de la première heure, puisque j'ai eu la chance d'écouter au temps de mes études Dumont, qui s'était Dumont. Présenté à la présidence de la République et qui nous René disait Dumont. Déjà en 68... L'agriculture va dans le mur.
Le premier des écologistes, un précurseur.
René Dumont.
René Dumont, oui, tout à fait. J'ai dit Bruno, mais ça, c'est un cinéaste. Il est plus jeune. On est ravis, en tout cas, Jackie, de te recevoir. J'ai parlé de penser le vin. Est-ce que c'est une façon de définir ces livres, ces ouvrages dans lesquels tu t'inscris aussi, et le dernier particulièrement dont on va parler, Le monde du vin aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir non pas des ouvrages techniques sur la dégustation, pas seulement le côté économique ou social et culturel, mais en essayant d'embrasser tout ça.
Oui, bien sûr. Au temps de mes études, puisque j'évoquais 68, j'ai commencé mes études supérieures en 67, 66 même, et j'ai fréquenté la fac de sciences, la fac de sciences humaines, la fac de médecine, et j'ai préparé avec Bruno Latour, d'ailleurs, on était la même année, lui il l'a eu, pas moi, la grecque de philo. Donc je me suis de toute façon autoproclamé philosophe des terroirs.
Patrice, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Jacques Irigaud et en quoi ces livres ont été importants, ont influencé pour toi ton parcours de nophile ?
C'est une découverte un peu plus tardive, hein, je dirais, enfin tardive, chacun a son parcours de dégustation. Et puis c'est un peu dans la filiation des Bruno Quenu, des gens comme ça qui font que le vin c'est plus qu'un produit, c'est aussi une âme, une psychologie, une rencontre, un sujet. Et donc si on tend vers cette direction-là, qui n'est pas définitive mais qui est une des approches, et c'est souvent une des approches qui est un peu... on va dire, soit sous-estimée, soit mise de côté par rapport aux dégustations un petit peu classiques et des formations qu'on a dès le départ plutôt sur les grands standards bordelais, hein, quand on commence la dégustation, on commence par là, sans bien sûr dénigrer tout ce qui est bordelais et l'approche des arômes. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur cette approche un peu plus intimiste, on va dire, du vin. Voilà, donc c'est plus une rencontre, on va dire.
On aurait beaucoup de sujets à aborder avec Jacques Irigaud parce qu'il y a pas mal de livres, on va pas pouvoir tout faire, mais je pense qu'il y a une chose avant d'aborder le dernier livre qui parle vraiment du monde d'aujourd'hui, du monde du vin aujourd'hui, dans lequel il y a pas mal de choses. Moi, il y a un mot qui est associé à Jacques Irigaud. Dites-moi si c'est la même chose pour vous. Est-ce que cela évoque, c'est la dégustation géosensorielle. Est-ce que quelqu'un autour de cette table peut me définir et puis Jackie comme ça dira s'il est d'accord, si ça lui parle.
Bon, il n'y a que moi qui prends le risque aujourd'hui. c'est pas moi qui... Je vais citer Jacques Irigaud et puis il y a sûrement d'autres personnes, mais c'est effectivement les mots ont un sens. Dégustation, donc c'est déguster, et du tâter, toucher le vin, donc plutôt toucher le vin que le sentir. Et donc avoir une approche beaucoup plus à travers le toucher du vin que le nez ou l'œil, qui est plutôt la dominante avec l'analyse, comme on dit, sensorielle, qui est assez intellectuelle. Le toucher du vin, c'est une approche, et la dégustation géosensorielle, c'est une approche un peu plus intimiste et un peu plus, corporelle, finalement, de la dégustation. Jacques, est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Absolument. D'ailleurs, c'est toujours important de rappeler que avant que n'existe la dégustation dite analyse sensorielle ou évaluation sensorielle, on dégustait avec le tas de vin. Et mon préfacier chéri, si je puis dire, c'est bien sûr Aubert de Villene, quand il a préfacé mon petit livre qui s'appelle « Le réveil des terroirs, défense, illustration » des climats de Bourgogne, il a écrit « La dégustation géosensorielle est consubstantiellement associée à la philosophie des climats ». C'est-à-dire que les climats, c'est une réalité tangible, physique, mais également historique, culturelle. Et quand on est dans un climat, quand on est les pieds dedans, les pieds touchent la terre, on va toucher la feuille, on va toucher le raisin, et le lieu va nous restituer dans le verre, une fois que le raisin s'est transformé en vin, va nous restituer le message du lieu, qui est un message qui est d'abord tactile. Et nos gourmets d'antan, ils commençaient par mettre le vin en bouche, donc ils commençaient par le tâter, ils s'appropriaient dans un premier mouvement les sensations tactiles du vin que Pierre Poupon, René Angèle, puis Henri Jaillet aimaient qualifier de texture. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un grand vin ? Un grand vin, c'est un vin qui a une texture.
Juste une question, Jackie, tu parles souvent dans ton livre, etc., du gourmet. C'est quoi ta définition du gourmet ?
C'est tout simple. Comme chacun sait, il y avait un énorme commerce, un commerce très florissant pendant toute l'Antiquité, qui fait qu'au nord de Dijon, il y avait une tribu très très civilisée dont on a retrouvé le fameux vase de Vix qui date de 600 ans avant Jésus-Christ. Il buvait du vin, mais un vin qui venait de Grèce ou d'Italie, enfin qui venait du pourtour de la Méditerranée. Et donc ce commerce a été très très florissant. Et il s'est estompé avec la chute de l'Empire romain. La chute de l'Empire romain, tout est allé à volo. Et jusqu'au XIIe siècle, ce sont les moines qui commercialisaient une petite partie de leur vin au grand de ce monde. Et à partir du XIIe siècle, ça y est, il y a à nouveau un commerce international, essentiellement européen à l'époque. Et les villes se sont développées. Et dans tous les vignobles et dans toutes les villes importantes sont apparus des professionnels du commerce du vin qu'on a appelés les gourmets et qui par la suite se sont appelés courtiers, gourmets et piqueurs de vin. Et ça, ils ont existé du XIIe siècle jusqu'à la Révolution française, puisqu'à la Révolution française, toutes les corporations ont disparu, dont celle des gourmets. Et c'est Henri Jaillet qui m'a permis de retrouver les gourmets. Un jour que je dégustais dans sa cave avec quelques amis vignerons, dont Didier Dagneau, Alphonse Mello, Nadie Foucault et quelques autres, et je décrivais avec moult descripteurs olfactifs le gros Parentoux, et Henri me regarde, dis donc, Jacques, il oublie quand même pas que le vin, il n'est pas fait pour être reniflé, il est fait pour être bu. Arrête de m'embêter, arrête de me saouler avec ton bréviaire des arômes. Et reviens à la dégustation, à la vraie dégustation. Et c'est là qu'il m'a dit, est-ce que tu as lu le Jules Laval? J'avais bien sûr lu le Jules Laval, 1855, sur les grands vins de la Côte d'Or. Et il dit, t'as bien vu le chapitre sur le gourmet? Et là, je lui dis non, Henri, désolé. J'ai dézappé le chapitre. En fait, le chapitre, c'est simplement deux pages. Une demi-page d'un côté, une demi-page de l'autre. Mais tout est dit par Jules Laval, qui rappelle, presque oublié de nos jours, le gourmet, etc. Et dans sa science, était capable de retrouver si ce qui était dans le tonneau, c'était bien le vin issu du lieu qui était écrit sur le tonneau. Donc, les gourmets étaient les spécialistes de la dégustation géosensorielle. Ils savaient reconnaître, par le toucher de bouche en particulier, le message du lieu, c'est-à-dire que le Chambertin est toujours plus consistant que le Griot de son voisin. La tâche est toujours plus consistante que la Romanée, sa voisine, etc. Donc, il y a des différences gustatives, tactiles, mais d'abord tactiles, gustatives et rétro-olfactives, parce que les gourmets, ils n'oubliaient pas les arômes, mais les avaient en rétro-olfaction, c'est-à-dire une fois que le vin est en bouche.
On est là sur un des éléments un peu clés de cette différence entre géosensoriel et la dégustation classique. Je me tourne vers toi, Bertrand, qui a beaucoup dégusté et même formé des dégustateurs. Est-ce que tu confirmes que l'olfaction le standard de la dégustation actuellement a pris le pas sur cette approche un peu gustative, la nature du vin en bouche, sa granularité, ce type de vocabulaire.
Oui, alors juste pour mettre un peu de contexte, donc moi dans le civil, j'ai été formateur donc pour les établissements Nicolas, donc j'ai formé des cavistes.
C'est un coming out.
Ça y est.
Je suis très ému.
et donc j'ai eu un public plus ou moins confirmé, donc que de professionnels ou de futurs professionnels, mais la première séance de dégustation est toujours très très compliquée parce que bon, alors au-delà de l'ambiance, ils ont peur de dire des conneries, il y a un gros enjeu pour eux. C'est la prise de parole en public lors d'une dégustation est toujours très compliquée, et quand on les sort de l'olfactif, ils arrivent toujours à dire quelque chose. Quand on leur dit décris-moi ce vin, ils arrivent à sortir des termes qu'ils pensent faire bien, enfin bref. Mais dès qu'on parle de la bouche et de la texture, et là c'est le grand vide en général, c'est très très compliqué. Parce qu'on est moins habitué et il n'y a pas... le vocabulaire est beaucoup moins riche. Et souvent, quand on parle de dégustation, très vite se pose le problème du vocabulaire. Parce qu'on a envie de transmettre des émotions, on a envie enfin des émotions et surtout des sensations et peut-être des émotions. Et souvent, c'est le problème de la verbalisation. Et c'est le premier frein, qu'on rencontre, c'est un manque de vocabulaire. Donc c'est pour ça que la dégustation géosensorielle peut apporter aussi, même à un dégustateur plus classique et peut-être plus formaté aussi, une richesse de vocabulaire qui souvent fait défaut.
Jacques Irigaud, vous confirmez, ce serait presque par facilité qu'on a négligé la bouche au profit du nez.
Non, c'est beaucoup plus intéressant et intéressant. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que n'oublions jamais que dans les années 60-70, la dégustation, le vocabulaire de la dégustation était d'une pauvreté incroyable. C'est-à-dire qu'on a perdu avec le 19e, la pratique des gourmets. Le 19e, c'est le siècle où se sont imposés les vins technologiques, les vins de marque, etc. Et on a complètement oublié la façon dont les gourmets reconnaissaient les parcelles, les climats, comme on dit en Bourgogne. Et dans les années 60-70, c'était la belle époque où il y avait le plein emploi, etc. Et les vignerons ont voulu étendre d'une manière considérable les appellations. Moi, je me rappellerai toujours le père d'un de mes amis d'enfance, parce que je suis originaire de Pouilly-sur-Loire, quand il a appris que je m'intéressais de plus en plus au vin, là on est à la fin des années 70, fin des années 60, début des années 70, disons Jacques, qui oublie pas quand même que tant qu'on voit le clocher de Saint-Andelin, on peut planter de la vigne. Donc c'est pour dire qu'il y a eu une époque où on a voulu vraiment agrandir les parcellaires en AOC. Et il a fallu trouver une dégustation scientifique pour trouver la typicité. Or, à l'époque, les ingénieurs de l'Institut national des appellations d'origine n'ont trouvé que Jules Chauvet comme savant pour les aider à construire une dégustation scientifique. Et Jules Chauvet, qui était un homme exceptionnel, il était en train de travailler sur les arômes et il travaillait aussi sur le rapport de la surface du liquide et du contenant. Et avec les ingénieurs de l'INAO, il les a aidés à fabriquer le verre INAO et ils se sont centrés essentiellement sur les arômes parce qu'ils ont pensé à l'époque que les arômes étaient le descripteur majeur pour identifier le lieu. Et moi, j'ai été formé comme ça aussi par cette dégustation qu'on appelle analyse sensorielle. Donc, il faut surtout pas médire de ce travail de Jules Chauvet, développé bien évidemment par François Sauvageau, qui lui parlait plutôt d'évaluation sensorielle que d'analyse sensorielle. Et ça a été le premier outil des temps modernes, scientifiques, pour essayer de caractériser les vins. Sauf que, on sait après coup, et maintenant Gabriel Lepouzet va fonder, si je puis dire, entre guillemets, scientifiquement la dégustation du gourmet, c'est-à-dire que les gourmets recevaient beaucoup plus d'informations, de messages du lieu, en commençant par la bouche, tactile, gustatif, rétro-olfactif, qu'en démarrant tout de suite par les odeurs, d'autant plus que les odeurs, elles ne sont vraiment intéressantes que quand le vin a déjà quelques années de bouteille, et on parle alors de bouquet, parce qu'alors, au début, dans leur jeunesse, s'ils sont élevés en fût, c'est le fût qui domine, les arômes variétales, etc. aussi, mais pourquoi l'analyse sensorielle s'est développée d'une manière si extraordinaire? C'est parce qu'on est dans un moment de l'histoire où le nouveau monde se met au vin, etc. Le nouveau monde, il fait de la marque, il fait du cépage. Donc, on va évaluer le vin dans sa dimension intrinsèque. Les Américains décrètent que le grand vin, c'est le vin élevé en fût neuf. Donc, les sensations toastées, etc., vont s'imposer comme les caractéristiques du grand vin. Coup de génie pour l'analyse sensorielle, mon vieil ami, parce que je l'ai perdu de vue, mais je l'ai bien connu, le nez du vin. Voilà.
Jean Lenoir,
Monsieur Lenoir, peut-être.
J'oublie son prénom, Jean. Voilà, Jean Lenoir a un coup de génie. Il crée le nez du vin. Les sommeliers qui n'avaient pas énormément de culture à l'époque s'emparent de cette dimension aromatique. Un ingénieur du BIVB crée la fameuse cave aux arômes. Et voilà donc le monde entier avec le verre INAO qui devient le verre de la mondialisation, qui privilégie le nez. Eh bien, voilà l'analyse sensorielle qui est sur orbite et qui nous fait oublier que 1000 ans de pratique du gourmet. Vous voyez donc, ce qu'Henri Jaillet a réussi à faire d'une certaine façon, c'est qu'il avait senti en moi un garçon qui aimait déguster, qui aimait surtout reconnaître le message du lieu, et il m'a fait la leçon, il m'a dit arrête de
renifler,
de sortir ton bréviaire des arômes, commence donc par réapprendre avec le temps de vin. Eh ben, tu vas tâter le vin, tu vas faire comme
alors,
moi.
Alors, je vous interromps, Jackie, ce qui n'est pas chose facile.
On mâche et ensuite on grume.
Jackie Rigaud, je vous interromps parce que justement, on va passer à une étape qui est essentielle.
On va faire un exercice pratique avec le vin blanc qu'on a choisi ensemble.
Voilà, on va déguster un premier vin, on déguste deux vins dans chacune de nos émissions. Et là, il se trouve que, alors c'est l'idée de Patrice, on a mis le vin non pas dans un verre INAO pour faire vite, classique, ce qu'on fait toujours, hein, pour vous dire, mais dans un verre. Alors, on n'a pas de tasse-vin. On a fait le tour de toute l'équipe, personne n'a de tasse-vin chez lui, et je ne sais pas trop où on aurait pu en trouver, mais on a des verres, là, ou des verres plats, quoi, des verres,
Des verres à tapas, avec des buvons absolument d'une finesse remarquable.
Des verres à tapas. Et je te laisse, Patrice, nous parler de ce qui est dans le verre.
Jackie, le vin est à portée de main aussi pour toi ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, et je l'ai en 17 et 19. Hein.
Alors, là, on est en 17. La particularité de Jackie, c'est qu'il est voisin du producteur, donc ça, c'est assez pratique. Il est passé à midi à aller chercher Sylvain Pataille, Bourgogne.
C'est un nom qu'on avait déjà prononcé quand on a fait un tour.
Et là, on est sur un vin blanc. Qui est, alors je sais pas si on donne le nom tout de suite, mais qui est intéressant parce que c'est un Bourgogne aligoté, et Pataille est assez reconnu, on va dire ça comme ça, pour être un aligoteur qui considère que l'aligoté est un cépage du même niveau que le chardonnay quand il est travaillé correctement.
C'est ça, historiquement, enfin, je ne sais pas si historiquement c'est le bon terme que je dois employer avec Jackie, mais on a souvent considéré que l'aligoté était un peu un sous-cépage en Bourgogne avec lequel on faisait que des vins un peu secs.
Apparemment, c'est assez récent.
C'est le cépage du quire. C'est pas du kir, la ligoté. C'est ce qui fait qu'il est si peu valorisé.
Je pense que Jackie en sait plus que nous sur la question, mais il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait de la ligoté sur la colline de Corton, et que c'est pourvu que ça
oui,
soit...
Oui, mais ça, c'est la simplification des temps modernes, c'est-à-dire que quand on a créé les AOC, il a fallu normaliser, mettre de l'ordre dans les cépages, etc., et on a viré la ligoté. Pour les blancs, on a privilégié dans la côte exclusivement le chardonnay, ce qui est une erreur, d'autant plus que le chardonnay est issu historiquement du pinot blanc, etc. Et donc la ligoté s'est retrouvée bannie dans les bas de coteaux ou dans les hautes côtes. Or, quand il est planté dans des vrais terroirs, comme c'est le cas pour Sylvain Pataille, eh bien Sylvain a même de la ligoté dans son fameux Clos du Roi. Et donc, quand on déguste des vins issus de la ligoté dans un grand terroir, dans un grand lieu, dans un grand élément, on oublie complètement le cépage pour ressentir le message du lieu. C'est là que la dégustation géosensorielle est intéressante. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous le savez sans doute, le chardonnay va mal, en particulier ceux qui sont plantés sur des porte-greffes qui sont généralisés dans les années 80, plus des clones, donc clones sur porte-greffe problématique, ça donne aujourd'hui beaucoup de dégénérescence du chardonnay, alors que la ligoté, lui, qui est plus vaillant, qui est plus résistant, qui a été moins cloné, etc., surtout il y a encore de la ligoté dit dorée, eh bien voilà un cépage qui est en train de sortir son épingle du jeu et qui va nous donner de plus en plus de choses passionnantes. Et surtout quand le Montrachet se vend maintenant entre 700 et 1000 euros la bouteille, on va heureusement pouvoir encore déguster des Bourgognes à ligoté de terroir qui sortent des caves entre 10 et 25, 30 euros maxi.
Alors, si on prend ce vin, justement, Jackie, là, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, quand on est sur la géosensorielle, et là, je parle au maître, on est plutôt, effectivement, on a dit sur le toucher de bouche, sur la texture, etc. Donc, que peuvent nous dire mes voisins sur ce vin ? Donc, Champforêt 2017, hein ? Donc, qui est un climat...
On va les écouter les dates, après, je te donnerai ma sensation.
Moi, ce qui me frappe à la dégustation de ce vin, c'est sa longueur en bouche. En fait, c'est ce qui probablement me marque le plus, parce que je suis bluffé par cette longueur. On est sur un blanc effectivement très typé Bourgogne. Beaucoup de mal pour ma part à imaginez que c'est un aligoté. L'aligoté, c'est un peu comme ce qu'on avait vu sur le Sylvaner il y a quelques temps. Ce cépage qui, en Alsace, est complètement, on va dire,
sous-évalué. Ouais.
Sous-évalué, oui, effectivement, c'est le meilleur terme.
Et si tu l'as dégusté à la manière du gourmet, c'est-à-dire si tu as commencé par la bouche, pourquoi tu ressens tout de suite sa longueur ? Parce que tu t'es centré, même inconsciemment, sur la salivation. C'est-à-dire qu'un grand vin de terroir, c'est un vin salivant. Et à partir du moment où ça salive, ça veut dire qu'il y a du terroir. Il y a des vins monstrueux, dits du Nouveau Monde, bien construits, super bons, etc., avec la première bouche, mais tu vas pas boire le deuxième verre. Alors que dans un vrai vin de lieu, comme celui-ci, eh bien, ça salive. Et pour le coup, là, on en dira quelques mots tout à l'heure, parce qu'on est sur un endroit assez sablonneux. Il y a de l'argile qui explique la consistance, mais il y a aussi beaucoup de sensations sablonneuses, parce qu'on est dans le débouché de la fameuse combe du pré, et qui conjugue ses forces avec une autre combe dont j'ai oublié le...
Je profite de juste ce qu'on est en train de dire pour citer une des punchlines du livre, des phrases choc du dernier livre de Jacques Quirigo. J'en ai noté quelques-unes. Le cépage est le prénom du vin, son nom est le terroir. Alors, ce n'est pas de vous, c'est de
Umbrecht. Léonard Umbrecht.
Mais c'est très parlant par
rapport...
c'est très parlant par rapport à ce que vous disiez, avec ce que tu disais, Laurent. Là, tu oublies même que c'est un chardonnay. Par contre, tu pourrais dire que c'est un bourgogne. Enfin, si je raccourcis un peu.
Oui, tout à fait.
Aligoté, pardon.
Effectivement, ça a bien le profil d'un grand vin de Bourgogne, c'est-à-dire à la fois une vraie consistance, ça pèse suffisamment en bouche, une belle texture, et puis surtout une allonge, une longueur. C'est ça qu'on attend d'un vrai terroir à blanc en Bourgogne, c'est qu'on a tout de suite cette sensation de grande longueur en bouche.
Parce Bertrand. Que,
comme le disait un grand de Loire, le vrai vin de terroir, Charles Joguet, il aimait à dire le vrai vin de terroir, c'est un vin de fin de bouche. C'est en fin de bouche que le terroir s'exprime le mieux. Et pour qu'on ait bien la fin de bouche, il faut que ce soit bien salivant, très salivant, et que du coup, comme le dit bien Anselme Sélos, il faut qu'on ressente de la sapidité, qu'on a envie d'aller prendre le deuxième verre.
Bertrand, ton avis sur le vin?
Oui, pardon. J'ai coupé les remarques des professionnels de la dégustation qui sont autour de
Non, mais moi, c'est un vin qui m'impressionne parce que il est extrêmement puissant. Enfin, je trouve qu'il appuie fort sur la langue. Enfin, c'est un peu cette impression-là, c'est-à-dire qu'il pèse un peu.
Il y a de l'intensité, quoi.
Ouais, c'est-à-dire qu'il pousse. On sent qu'en bouche, il pousse. Ensuite, la première impression, j'essaye de me focaliser sur la texture. La première impression, c'est une espèce de suavité. Ça enrobe un peu la langue et ça a un aspect assez doux. Et ensuite, plus on avance dans la bouche, plus en se rapprochant de la fin de bouche, on a une salinité qui pointe son nez et puis après qui prend un petit peu le dessus, qui est assez forte. Et enfin, on a cette salidité qui, comme vous disiez, fait pas mal saliver et qui en fait un vin très très riche au niveau texture. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est un bon exercice, Patrice, que tu nous offres, y compris dans ces verres-là, parce que ça permet justement de se focaliser vraiment sur la bouche.
Rappelle-nous le vin qu'on est en train de boire, Sylvain Pataille.
Champforêt 2017. Donc, sachant qu'en Aligoté, en tout cas, ce n'est pas toutes les années qu'il les fait, mais il fait 7 crus différents et 7 terroirs différents d'Aligoté. Et donc, c'est assez intéressant de voir les différences.
J'ai dans mon verre d'à côté le 19, parce que ce qui est intéressant, c'est que 19 est un millésime qui donne un petit peu plus de chaleur, de consistance, etc. Mais ce qui est génial avec le 19 signé Pataille, c'est que cette sensation de salinité, de sapidité qu'on a en fin de bouche est aussi éclatante qu'avec 17. Avec un petit peu plus de sensation, de texture qui va s'engager tranquillement sur le soyeux, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la grosse texture veloutée du côté des grands crus de Puligny, on est plutôt sur des textures satinées qui évoquent plutôt des sensations qu'on va retrouver sur les grands terroirs de Chablis. Et là, avec ce champ forêt, on va au fil des ans, parce que c'est un vin qui va bien se garder, avoir une texture plus joyeuse que veloutée.
On dit que la minéralité, c'est le squelette du vin, donc avec un squelette comme ça peut le porter encore quelques années. Une question sur la géosensorielle. Je rejoins indirectement ce que disait Bertrand tout à l'heure, c'est-à-dire que la géosensorielle, ça peut faire un petit peu peur à l'amateur qui débute, parce qu'il y a à la fois le vocabulaire du vin et puis la connaissance des terroirs. Donc comment on pourrait faire, Jackie, pour désacraliser un peu la chose et faire que même l'amateur qui débute puisse commencer par la géosensorielle et encore une fois, pour que ce soit moins effrayant.
Pas le décomplexe, au contraire, puisqu'on commence par la bouche et qu'au niveau de la bouche, on ne peut pas lui raconter de baratin. Si tu as une sensation qui pèse suffisamment comme ce vin-là, c'est-à-dire que là, le vin, il n'est pas fluet, hein. Il s'impose dès l'entrée en bouche. Si tu lui dis qu'il est chaud ou froid, tu ne peux pas le tromper non plus. Et quand tu le centres sur la texture, il suffit de lui faire toucher des étoffes, comme Cyril Tota est en train de nous donner un outil. Demain, on aura aussi un jeu d'une dizaine d'étoffes qui permet de réentraîner sa sensation tactile. Parce que le tactile, ce qui est génial, c'est qu'on en a à peu près 30% en bouche. C'est-à-dire que la bouche est aussi performante que la main ou le pied ou la peau pour toucher. Et donc, il faut tout simplement réhabiliter le toucher, comme avec le coffret de Lenoir, on éduque le nez aux différents parfums. Donc, l'amateur qui démarre par la bouche, il se sent beaucoup plus en sécurité et à l'aise, parce que il renoue avec des choses tout à fait naturelles, tout à fait classiques, c'est-à-dire que on mâche le vin, donc c'est aussi un aliment, c'est matériel. Donc, même si on sent pas la violette, la prune, etc. tout de suite, on sent la matière, on sent la consistance, on sent la texture, on sent la souplesse plus ou moins grande de cette consistance. Là, ce qui est génial avec ce chanforé, c'est que à mi-bouche, on a cette sensation de ressort, on a cette sensation de flexibilité de la consistance. Bon, ben ça, l'amateur qui débute ou pas, eh bien, il ressent plus ou moins. Si tu lui dis que c'est flexible et qu'en fait c'est rugueux, ben il va te dire non, tu te fous de moi.
Je pense qu'effectivement, il faut
la bouche est beaucoup plus universelle et beaucoup plus commune, hein, c'est-à-dire qu'on partage beaucoup plus facilement les sensations de bouche que les sensations de nez.
Ouais, je pense qu'effectivement, juste pour rebondir sur ce que tu dis, faut simplement se faire confiance déjà sur la base j'aime pas. Qu'est-ce que ça m'évoque?
Parce qu'on a toujours défendu ici.
C'est beaucoup moins intellectualisant de le toucher de bouche que d'aller chercher des familles, arômes, etc. Voilà.
Il faut juste refaire.
Ouais. Il faut juste refaire confiance à ces sensations au départ.
Jackie, le temps avance et j'aimerais qu'on aborde quelques points qui sont dans le livre, qui sont particulièrement intéressants parce que tu tentes de faire le point du monde du vin aujourd'hui, comme le livre est intitulé, en faisant d'abord cette distinction qu'on a sentie à travers tes propos entre des vins de terroir et des vins technologiques, donc une explosion de l'industrie du vin mondiale qui a amené à une forme de simplification. Je le fais très vite, mais en gros, le cépage avant le terroir, le développement des marques. Et donc, on a développé toute cette partie technologique du vin. Tu dis que la chimie a failli tuer les vins de terroir. Alors, il y a d'autres punchlines que j'adore. C'est que, d'abord, tu dis que le vin est le produit phare de la mondialisation. Et c'est intéressant de lire ça. La recherche du terroir caisse. Des grands groupes qui cherchent de nouvelles terres à conquérir avec toujours les mêmes cépages, et donc si je comprends bien, et tu vas me le confirmer, une forme de lisibilité, on cherche la plus grande lisibilité possible au vin en oubliant justement la multiplication, la multiplicité des arômes, des goûts, des vins, des objets.
Des arômes aussi, tu l'as bien entendu, je suis pas contre les arômes, au contraire.
D'accord.
Ça fait partie de l'esthétique du vin. Ouf. Et en rétro-olfaction, on ressent même plus encore la dimension aromatique qu'en olfaction directe. Donc je suis au contraire même un champion des arômes du vin qui concourt à l'esthétique du grand vin de lieu. Alors que le grand vin de marques, de construits, issus de la construction d'un goût, et il va amplifier soit le boisé, soit le toasté, soit la prune, soit le pruneau, etc., à coup de chimie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez sans doute, le grand vin pour l'Américain, c'est le vin boisé. Et qu'ont fait les industriels? Ben, ils ont créé les staves. Les staves, en anglais, en français, ça se fait STAVE. C'est-à-dire qu'on rentre dans des cuves du bois, ou mieux, on tapisse les cuves de bois, plus ou moins toastées, plus ou moins brûlées, etc. Donc, on fait des vins issus de la construction d'un goût. Alors, on affiche le chardonnay, le pinot, etc. Et on aromatise tout ça en fonction des goûts supposés du client. C'est-à-dire que comme le vin est devenu effectivement le produit phare de la mondialisation, toutes les copies des grands vins sont permises. Et moi, pourquoi je défends aujourd'hui la biodynamie, c'est que la biodynamie nous rappelle que qui dit terroir dit vie dans les sols. Sinon, on est dans un simple support de plantes, à coup d'engrais chimiques, à coup de pesticides, à coup d'herbicides, etc. Alors que si on se recentre sur les vrais terroirs, et il y a de nouveaux terroirs qui émergent au Chili, en Californie, et un peu partout dans le monde.
Alors justement, c'est un des éléments aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas un constat d'échec. Le combat est en cours, si je puis y dire, c'est-à-dire entre ces deux approches, on est plutôt... On est plutôt, si je te lis bien, face à un retour à une dynamique forte du côté du vin de terroir, et pas seulement dans la vieille Europe, mais également dans ce qu'on appelait avant les nouveaux mondes.
Exactement. Et mon ami Ted Lemon et mon autre ami Chris Howell, californien, eh bien, eux font des vrais, vrais vins de lieu. Ted Lemon va même jusqu'à identifier une dizaine de climats à la Bourguignonne, et à l'inverse des climats de la côte qui sont dans le même secteur géographique, lui, il a des lieux qui peuvent être à 10, 15, 20, 30 kilomètres les uns des autres, mais il a cherché un peu partout dans la Sonoma des vrais endroits où régulièrement il y a un message original de lieu. Donc ça existe, ça représente peut-être que 1 ou 2% des vins de Californie aujourd'hui, mais c'est ce 1 ou 2% de vins de terroir est aussi intéressant que les vins de terroir de la Bourgogne, de l'Alsace, etc.
Ok, donc, Bertrand a une question.
Ouais, si je comprends bien, donc l'analyse sensorielle a un peu eu pour conséquence perverse de formater les vins. Est-ce que je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que une autre dégustation, donc c'est-à-dire évaluer un vin d'une autre manière, c'est-à-dire saucissonner, par exemple, analyser la texture, commencer par la bouche, analyser la texture, etc. Est-ce que saucissonner pour pouvoir évaluer, est-ce que ça va pas provoquer un autre formatage? Est-ce que le formatage n'est pas inhérent à toute forme d'évaluation finalement?
Alors, en fait, ce qui est intéressant avec la dégustation du gourmet qu'on a rebaptisé dégustation géosensorielle, c'est que c'est une dégustation holistique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence par la bouche, on a un message d'emblée de forme. C'est-à-dire que comme on active tous nos sens, le cerveau va plus facilement va à partir de l'impulsion du toucher, du gustatif et du rétro-olfactif, va nous donner d'emblée une forme. C'est-à-dire qu'on est obligatoirement dans l'holistique quand on commence par la bouche. Alors que quand on commence par le nez, comme le nez est excessivement puissant et qu'on peut avoir des milliers d'informations olfactives, l'olfaction nous amène, comme tu l'as dit, à découper. Alors que la bouche nous oblige à l'holistisme, à l'approche globale, comme le dit très bien le copain Bruno Queneau. Donc il n'y a aucun risque quand on déguste comme un gourmet. La seule chose, c'est qu'on ressent plus facilement si on est en présence d'un terroir ou pas. Si ça ne salive pas, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, ce n'est pas dans un terroir. S'il n'y a pas une vraie texture qui se déploie entre le soyeux et le velouté en passant par le satiné, etc., même si c'est monstrueux, même si c'est impressionnant, ce n'est pas dans le terroir. Donc, ce qui est intéressant avec la dégustation géosensorielle, c'est qu'elle nous met plus facilement en contact avec le message du lieu.
Mmh. Bon, là, on déguste un deuxième vin que tu n'as pas, on en a parlé, hein, un rosé qui est très clair d'ailleurs, pour, du domaine Auvette, donc en Beau-de-Provence, qui s'appelle Petra 2018. Et effectivement, si on prend la forme immédiate à la dégustation, c'est une forme assez, pour moi, assez ronde, assez sensuelle, assez attirante. C'est hyper gourmand, c'est très, très, très sapide.
Donc, il y a sûrement beaucoup d'argile, si tu commences à...
Effectivement, on est sur un sol argilo-calcaire. Ouais, à Saint-Rémy-de-Provence et chez Dominique Auvette, on est sur un sol argilo-calcaire. Et je trouve juste... Voilà.
Donc, un vrai terroir.
Oui. Bah, Auvette travaille normalement plutôt bien. Hein. Elle est en biodynamie depuis 2003.
Incroyable.
Et moi, c'est un rosé. Voilà, c'est le seul rosé qui m'a donné vraiment une émotion à la première dégustation. Donc le Petra 2018, parce que je trouve excessivement savoureux, excellent, mais en même temps avec une certaine longueur, une certaine épaisseur. Et voilà. Donc si je devais donner une forme, elle serait peut-être un peu trop érotisante pour que je la formule au.
Alors, au-delà de ça, c'est vrai que ce forme de dégustation.
Le vin fait partie de la dimension sensuelle de la vie. C'est évident.
On est bien d'accord avec ça, je crois, Jackie. Bertrand.
Non, mais je voulais juste rebondir sur ce que disait Patrice. C'est vrai que cette forme de dégustation, commencer par la bouche et surtout analyser la texture, ça donne un vocabulaire beaucoup plus sensuel, beaucoup plus charnel. Parce qu'on veut justement.
Oui, le vin, c'est charnel, c'est sensuel, c'est. C'est fait pour boire, c'est fait pour nous enjouer.
Et on est
c'est
beaucoup.
On est.
Voilà, on s'éloigne des paillasses de labo, quoi. C'est ça. On est plus dans.
Mais oui.
Moi, je trouve ça. Vivant. Je trouve ça évidemment très intéressant. Un peu déstabilisant quand même. Je dois dire que moi, j'ai mis du temps à commencer à créer, à m'approprier un peu de vocabulaire à l'olfaction. Que là, c'est comme si je devais tout mettre par terre et vraiment me concentrer sur la bouche. Alors, c'est pas la première fois qu'on en parle. Hein. Vous m'avez amené chez les camarades. À aller dans cette direction, mais voilà, je comprends ce que vous dites. Il faudrait se libérer de quelque chose pour parler de ce qu'on a en bouche. Mais Laurent, tu veux dire quelque chose?
Oui, moi je trouve que on oppose énormément la bouche et le nez. Pour moi, effectivement, se focaliser sur le nez, c'est certainement une erreur, mais il me semble qu'une dégustation, ça passe par trois phases. Moi, j'ai du plaisir sur les trois phases. J'aime bien regarder un vin, j'aime bien le sentir. Et en bouche, évidemment, c'est un peu l'apothéose, normalement. C'est la confirmation de ce qu'on a vu et ce qu'on a senti. Moi, je n'aime pas trop cette opposition entre le nez et la bouche. Pour moi, c'est très complémentaire, c'est très progressif. Et je ne suis pas du tout sensible à cette volonté d'opposer ces deux approches.
Alors, je rebondis, parce que pour moi, ce n'est pas une opposition. Là, si c'est ce que je donne à penser hein, quand je vais réécouter...
C'est plutôt l'ordre dans lequel on fait les choses.
Je vais complètement passer à côté. Parce qu'en fait, ce qu'Henri Jaillet m'a appris en me recentrant sur la bouche, c'est qu'on active... tactile, gustatif, rétro-olfactif. Donc, on active les trois sens. Donc, on ne va surtout pas se priver des arômes. Mais le rituel du gourmet qui est bouche, œil, parce que là, on n'a pas parlé de la couleur de ce vin-là, mais c'est merveilleux. On pourra en dire quelques mots. Et or, si tu commences par l'analyse sensorielle, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est récent. Ça date de Jules Chauvet. Avant, tout le monde commençait par la bouche. Donc, ça ne veut pas dire... qu'on se prive du plaisir de l'olfaction, ça veut dire que si on fait, comme Jules Chauvet, premier nez, deuxième nez, troisième nez, quatrième nez, que fait le cerveau une fois que le vin est en bouche, il va chercher à affiner ce plaisir qui est génial de l'olfaction. Moi, je suis un jouisseur de l'olfaction autant que du tactile, du gustatif. La jouissance, elle est globale, elle est holistique. Donc, je n'oppose pas. Je rappelle que si on commence à pratiquer comme le gourmet, on s'apercevra que finalement, rien n'empêche de sentir en olfaction directe après avoir commencé par la bouche. Et ça, surtout, si on veut ressentir le message du lieu. Mais quand on boit des canons entre copains, etc., Si on a envie de démarrer par le nez, on va démarrer par le nez. Si on a envie de démarrer par la bouche, on démarre par la bouche, on s'en fout. Moi, ce que j'ai voulu à travers la dégustation géosensorielle, c'est plutôt accompagner le réveil des terroirs. Voilà, c'est là-dessus que je voudrais terminer. J'ai eu la chance d'accompagner le réveil des terroirs avec mon ami Henri Jaillet, à une époque où, dans les années 70, tous les vins de Bourgogne se ressemblaient. Ils étaient tous plus médiocres les uns que les autres. J'exagère un peu. En disant que c'était une époque où le vin s'était laissé aller à la facilité du tout chimique à la vigne, de l'intervention dans les chais avec la gomme arabique et tout le tintouin. Bref, il y avait plus de diversité et de messages extraordinaires de terroir. Donc, en réactivant l'intérêt pour le terroir, aux côtés d'Henri Jaillet, Didier Dagneau, Nadie Foucault, Marc Redenweiss, n'oublions pas Delbecq dans le Bordelais, qui est un type extraordinaire. On l'a un peu oublié aujourd'hui, mais Pascal a eu un rôle considérable dans le Bordelais pour ramener le terroir dans la lumière. Et bien, à partir du moment où il y a eu ce réveil des terroirs, bien, c'était normal que ce réveil la dégustation du gourmet. Robert de Vilaine un jour me l'a dit, lui-même comme moi, on s'est mis à l'analyse sensorielle, mais très 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 vite on a ressenti que c'était bien mieux de recevoir le message du lieu par la bouche. Mais on va pas se priver des odeurs. Donc après, chacun va bien sûr dans des jurys professionnels déguster comme il l'entend. Moi, je n'en fais surtout pas une guerre de tranchées. On a assez souffert en 14-18 de cette effroyable guerre qui a bousillé tellement de choses et qui a tué tant des forces vives de la vieille Europe. On va surtout pas s'engager dans une guerre de tranchées entre l'analyse sensorielle et la dégustation géosensorielle. Tout ça va dans le même sens, c'est-à-dire heureusement que Jules Chauvet a donné aux ingénieurs de l'INAO des bases scientifiques pour déguster, pour repérer ce qu'on appelait à l'époque la typicité, moi je préfère dire l'originalité. Et si demain les ingénieurs de l'INAO et les apprentis œnologues dans les universités redécouvrent l'intérêt pour la dégustation géosensorielle du gourmet, eh ben, ce sera à eux de faire leur protocole comme ils l'entendront, etc. Mais n'oublions jamais que le vin est fait aussi pour le plaisir, c'est-à-dire que là, d'abord, on s'amuse un petit peu à ressentir le message du lieu, etc. Mais la finalité du vrai vin, c'est de nous mettre en joie, et quand on est entre amis, on ne va pas s'amuser à décortiquer, on va dire deux, trois choses, etc.
Oui, le vin, il n'est pas là pour être noté. Je pèse mes mots, il est là pour être apprécié et partagé, quoi. C'est le message de fond, quoi.
Ce qui nous met en joie, Jacques Irigo, c'est d'avoir passé cette presque heure ensemble. Voilà, merci infiniment pour ces éléments. On retient effectivement, et merci à Laurent d'avoir posé cette question, parce qu'il ne s'agit pas d'opposer les choses, plutôt peut-être de jouer...
Peut-être surtout pas de guerre de tranchées.
Voilà. Peut-être plutôt de jouer à inverser l'ordre dans lequel on a l'habitude de faire les choses. Je regarde, je hume, ensuite je goûte. Pourquoi pas un jour essayer de goûter d'abord et de voir ce que ça provoque en vous, amis, auditeurs, auditrices, œnophiles. Merci infiniment, Jacques Irigo. Je renvoie à la lecture de vos livres, dont le dernier est paru récemment, en septembre 2020, aux éditions
Terre en Vue. Parce que c'est un petit éditeur militant qui a besoin d'être soutenu.
Et un livre de référence, donc La dégustation géosensorielle, qui date de 2012, également aux éditions Terre en Vue. Voilà, un grand merci à vous. On aurait pu continuer à parler des heures, mais le studio est réservé seulement pour un temps un peu plus court que ça. Et il y a une autre émission derrière qui va être aussi assez marrante, bien que très différente dans l'approche et le sujet. Merci Jacques Irigo. À bientôt.
Merci à vous.
Merci.
Au plaisir.
Au revoir.
Bonne fin de journée.
Merci.
Voilà, on s'est régalé. Je vais juste rappeler les vins. Moi, je suis impressionné par ce rosé de Auvette.
Alors, le premier, c'était Sylvain Pataille, Bourgogne Ligoté, Champforêt 2017. Grand vin, franchement. Enfin,
c'est très cher, le Pataille.
Le Pataille, on trouve entre 25 et 30 euros. Okay. Pour un Bourgogne Ligoté, c'est pas. Donc, c'est assez cher.
Ne faites pas du kir avec. Hein.
Non. Voilà. Mais bon, après, tout est, après, c'est une notion de...
Ne faites pas de kir tout court.
C'est pas faux.
Pour moi, ça les vaut. Après,
faites ce que vous voulez en même temps.
C'est une notion très relative. Et puis, le Petra 2018 de Menovet, en IGP, hein, des Alpilles, elle n'est pas en Beau-de-Provence. Alors, je ne sais pas si c'est parce que la OC ne permet pas d'avoir des rosés ou si c'est son dosage 70% Cinsault, 15% Syrah et 15% Grenache qui fait qu'elle n'est pas en AOC. Mais c'est 25 euros. En général, et d'ailleurs, petit message à Tristan Depau, puisque c'est Tristan, j'ai commandé du domaine Ovet sur le vigneron d'exception, et il est arrivé ce matin, donc je me suis dit que c'était intéressant de voir.
Je suis curieux d'en savoir plus sur l'élevage.
Et bien, vous parlez de ça.
On est en œuf béton pour le Petra.
D'accord.
On est sur des œufs béton, ce qui doit contribuer à son toucher, son grain très fin
soyeux.
Et très soyeux. Ouais.
J'allais vous dire, vous discuterez de ça entre les deux émissions, parce qu'il faut changer.
Non, mais je crois que Jackie est contagieux, en fait.
C'est ça.
On entend ça beaucoup parler dès qu'on est
difficile
avec Jackie.
Difficile d'interrompre les gens au téléphone. Surtout que c'est quand même intéressant, tout ce qu'il nous a raconté. Voilà. On pourrait avoir un peu plus de temps, ce ne serait pas désagréable, mais on va quand même se limiter dans le format de cette émission. Merci Laurent Delceau.
Merci.
Merci Patrice Defay. Merci Bertrand.
Mais merci à toi, Romain.
Et on se retrouve très très vite pour une autre émission qui va à nouveau nous parler de voyage. Je sais pas pourquoi les voyages, c'est un truc là, 2021, début d'année, là on a envie de parler de voyage, je sais pas pourquoi.
Et rouler jeunesse.
Allez, bisous, à plus.